Bienvenue dans Le Logement, comment ça marche ? Votre chronique hebdomadaire proposée par l'Agence départementale d'information sur le logement des Bouches-du-Rhône. Bonjour à tous. Si la mise à disposition de son logement participe de l'entraide et de la solidarité, il n'en demeure pas moins que cet hébergement, dans un logement loué, peut donner lieu à certains questionnements juridiques. Est-il autorisé ? Le bailleur peut-il l'interdire ? Quelles en sont les limites et aussi les conséquences ? Pour en parler, j'ai à côté de moi nos deux experts, Thierry Moalic, le directeur de la DIL des Bouches-du-Rhône, et Audrey Fitoussi, juriste spécialisée en droit du logement, à la DIL également. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Manon.
Thierry, on rentre dans le vif du sujet avec cette question. Un locataire du parc privé a-t-il le droit d'héberger chez lui un tiers au contrat et plus particulièrement un proche, qu'il soit parent ou ami ?
Alors, il faut savoir que par principe, le locataire a l'obligation d'occuper effectivement et donc personnellement le logement. Il peut bien évidemment héberger un proche. Une seule limite, l'hébergement doit être gratuit car dans le cas contraire, il s'agirait d'une sous-location interdite par la loi. Quand on parle d'hébergement gratuit, il ne doit donc exister aucune contrepartie, qu'elle soit financière ou en nature.
Audrey, est-ce qu'une clause dans le bail peut interdire cet hébergement ?
Non, aucune clause ne peut avoir pour effet d'empêcher le locataire d'héberger ses proches. D'abord parce qu'une telle clause porterait atteinte à la liberté de la vie privée, ainsi qu'au droit à une vie familiale normale, promue par la Convention européenne des droits de l'homme. Et ensuite parce que cette clause est prohibée par la loi elle-même. Cela signifie qu'une clause dans le bail qui interdirait l'hébergement serait réputée non écrite.
Mais alors Thierry, qu'en est-il des clauses d'habitation personnelle, parfois insérées dans les baux et qui sembleraient laisser penser que le locataire doit être le seul à occuper effectivement le logement ?
Eh bien ces clauses ne font en réalité que reprendre l'obligation de résidence effective et personnelle qui découle de la loi et sont de fait tout à fait licites. Elles n'interdisent nullement aux locataires d'héberger des proches et ne trouveront à s'appliquer et donc justifier la réalisation du bail que dans l'hypothèse où le locataire admet habiter les lieux qu'épisodiquement, l'occupation du logement par un tiers ne pouvant pallier son défaut d'occupation personnelle. En fait, ce n'est pas l'hébergement qui est condamné, mais bien le défaut d'occupation personnelle du logement par le locataire qui aurait mis son logement à disposition d'un tiers.
Audrey, prenons le cas où l'hébergement temporaire se prolonge dans le temps jusqu'à en devenir la résidence principale de ce proche. Je pense par exemple à un adulte qui, à la suite d'une séparation, revient vivre chez ses parents. Cet hébergement peut-il influer sur le contrat du bail ?
Oui, effectivement, il est des cas où la situation personnelle du locataire va évoluer. Cela n'est pas interdit, comme on l'a dit, mais cette situation peut permettre, en cas de décès ou d'abandon du domicile par le locataire en titre, que le bail soit transféré à ce tiers et impose au bailleur un locataire qu'il n'a pas initialement choisi.
Cela peut concerner n'importe quel proche hébergé ?
Alors non, le transfert du bail ne peut pas bénéficier à tous. La loi en a fixé une liste limitative et parmi ces titulaires du droit au transfert, certains devront répondre à des conditions spécifiques.
C'est-à-dire ?
Pour certains, il sera exigé qu'ils justifient d'une durée d'un an de cohabitation antérieure au décès ou à l'abandon du domicile. Il en est ainsi des descendants, des ascendants, des personnes à charge et surtout du concubin notoire. S'ils ne peuvent justifier de cette vie commune pendant au minimum une année, le transfert de bail ne pourra leur être accordé et ils devront alors quitter le logement.
Et quels sont ceux qui n'ont pas besoin de rapporter la preuve d'une durée minimale de cohabitation ?
Il s'agit du conjoint et du partenaire pacsé. Et si plusieurs personnes potentiellement hébergées répondent aux conditions pour bénéficier d'un transfert de bail, alors seul un juge pourra trancher et l'attribuer à l'une d'entre elles. Si au contraire personne n'en remplit les conditions, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile de ce dernier.
Alors Thierry, on l'a bien compris, l'hébergement est légal et le bailleur ne saurait l'interdire par une clause du contrat, bien que parfois il en résulte des conséquences sur le bail. Mais qu'en est-il de la faculté pour le locataire de prêter son logement ? Le prêt suppose que ce dernier le laisse à la disposition d'un tiers, ce qui contreviendrait à l'obligation d'occupation effective.
Effectivement, mais malgré tout, le prêt, dès lors qu'il est temporaire, est compatible avec l'obligation d'occupation personnelle et effective qui pèse sur le locataire. Dans la loi du 6 juillet 89, le locataire n'est protégé que tout autant qu'il occupe les lieux à usage de résidence principale et non comme pied-à-terre. Selon la jurisprudence, cette obligation de résidence principale n'interdit pas au locataire de mettre temporairement son bien à disposition d'un parent, d'un ami, d'un tiers, pour des raisons personnelles ou professionnelles, car la loi n'impose pas une occupation permanente des lieux. Le prêt peut même être consenti pour une longue durée, dès lors que le locataire en titre continue de faire de son logement sa résidence principale.
Et justement, comment peut être définie la résidence principale ?
Eh bien, une réponse ministérielle de 1997 a donné une définition de la résidence principale. Elle doit s'entendre du logement où un contribuable réside habituellement et effectivement, et où se situe le centre de ses intérêts professionnels et matériels. En cas de déplacement professionnel fréquent, l'habitation principale est le logement où la famille réside en permanence. Et lorsqu'il n'est pas possible de se référer à ce critère familial, la résidence principale doit en toute hypothèse rester celle où le contribuable a ses attaches les plus fortes.
Audrey, si la légalité du prêt est admise, elle ne saurait permettre au locataire d'installer un tiers dans son logement.
Effectivement, les juges ont instauré des garde-fous et il y aurait lieu à prononcer la résiliation du bail lorsque le locataire n'occupe plus ou pratiquement plus les lieux qu'il a abandonnés à un tiers ou plus souvent à un membre de sa famille. Ces cas s'apparentent davantage à une cession du bail ou une sous-location qui est interdite par la loi.
Pour parer à d'éventuelles dérives, Thierry, le bailleur peut-il, par une clause du contrat, interdire le prêt du logement ?
Eh oui, contrairement à l'hébergement, le prêt peut être interdit par la convention. C'est en effet ce qu'a admis très clairement la Cour de cassation en 2010 en validant que la clause stipulant que le preneur ne pouvait prêter les lieux à un tiers, sous quelque prétexte que ce soit, sans le consentement express et par écrit du bailleur.
Audrey, si l'hébergement et le prêt sont autorisés, il en va différemment de la sous-location. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage ?
Oui, alors le fait de sous-louer son logement implique pour le locataire en titre de mettre à disposition l'entier logement sous réserve d'une contrepartie financière au bénéfice d'un tiers. La sous-location maintient des relations établies entre le bailleur principal et le locataire initial, mais entraîne un second rapport locatif entre le locataire et le sous-locataire. Cette sous-location, qui est interdite par la loi du 6 juillet 89, s'applique de plein droit, sans qu'il y ait besoin qu'une disposition contractuelle soit rédigée en ce sens.
Il ne serait donc pas possible de l'autoriser par contrat ?
Si, bien sûr, parce que la loi n'a pas interdit de manière absolue la sous-location, mais elle nécessite un accord du bailleur, tant sur le principe de la sous-location que sur le montant du loyer, lequel, je le rappelle, ne saurait excéder celui payé par le locataire principal. L'objectif ici est d'éviter toute spéculation. Cette autorisation est nécessairement écrite et elle doit être transmise au sous-locataire lors de la signature du contrat de sous-location.
Thierry, qu'en est-il du régime juridique applicable à cette situation qui permet sur un même bien de conclure deux contrats entre des parties différentes ?
Effectivement, il est nécessaire de clarifier la nature des rapports et des obligations de chacun. Nous l'avons dit, la sous-location maintient le contrat entre le bailleur et le locataire principal, qui demeure donc tenu de l'ensemble de ses obligations résultant du contrat. De plus, il est lui-même tenu des obligations de bailleur à l'égard du sous-locataire qui reste étranger en principe au bailleur. Mais surtout, le contrat de sous-location est soumis aux dispositions du droit commun contenues dans le Code civil et non à la loi du 6 juillet 89 qui, je le rappelle, est beaucoup plus contraignante. Les parties sont donc libres dans la rédaction du contrat. Seul le montant du loyer est limité à celui dont s'acquitte le locataire principal.
Mais dans ce cas, que se passe-t-il en cas de cessation du contrat de location principale ?
La situation du sous-locataire est précaire, puisque la loi prévoit justement qu'en cas de cessation du contrat principal, celui-ci ne peut se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux, et ce, même si l'arrivée à terme du contrat principal est antérieure à celle du contrat de sous-location.
Eh bien, merci à nos deux experts Thierry Moalic et Audrey Fitoussi. Auditeurs, si vous souhaitez mettre à disposition le logement dont vous êtes locataire, je vous recommande de contacter les conseillers juristes de la DIL qui vous apporteront évidemment les informations complémentaires et personnalisées dont vous avez besoin.
Rendez-vous mardi prochain pour un autre sujet dans le logement, comment ça marche ?